Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Le samedi 18 juin s'est tenu au mémorial de l'internement et de la déportation à Compiègne la troisième édition du festival Traits de mémoire, festival dédié à la bande dessinée historique. Débutons le reportage avec Gabrielle Périssy, directrice adjointe du mémorial.
Alors, nous sommes au mémorial de l'internement et de la déportation qui se trouve à Compiègne, dans l'ancien camp de Royallieu. C'est un mémorial qui est dédié à une période de 1941 à 1944, durant laquelle plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été internées dans le camp de Royallieu en tant que prisonniers politiques lors de l'occupation allemande en France.
Alors, c'est tenu ce week-end le festival Traits de mémoire, c'est la troisième édition. Est-ce que vous pouvez présenter ce festival ?
Alors, nous avons souhaité essayer de mettre en place une programmation culturelle pour emmener des publics au mémorial qui n'ont pas forcément tendance à venir par eux-mêmes. Donc, on s'est dit que la bande dessinée, c'était un moyen de faire venir peut-être des jeunes, des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir au mémorial. On a mis en place une première exposition sur Tardy en 2019 qui a très bien fonctionné. Avec un commissaire, Pierre-Marie Jamet, qui a une société de production dans le monde de la bande dessinée, avec qui on a eu des très bonnes relations et on a eu l'idée ensemble de créer un événement annuel, donc le Festival de bande dessinée historique, avec chaque année un auteur ou un album mis en lumière lors d'une exposition. Et après, on invite divers auteurs pour des séances de dédicaces et des conférences lors du week-end dédié au festival.
Donc l'invité d'honneur, on l'a dit, c'était Emmanuel Guibert.
Oui, donc cette année, on a invité Emmanuel Guibert. Chaque année, on choisit un album avec pour thème la Seconde Guerre mondiale. Cette année, on a choisi Emmanuel Guibert, étant donné qu'il a eu le Grand Prix d'Angoulême récemment. Et on a eu de la chance que M. Guibert était d'accord pour nous prêter ses planches originales qu'on va exposer jusqu'au 18 septembre de cette année.
Exposition, on peut voir aussi des objets personnels de l'auteur.
Des objets personnels de l'auteur ainsi que Alan Kopp qui est le sujet de cette bande dessinée, tel que sa veste militaire qu'il a portée pendant la campagne en question dans l'album.
Alors Emmanuel Guibert, c'était l'invité principal, mais il y avait aussi d'autres auteurs dans le hall d'entrée qui dédicaçaient leurs ouvrages.
Oui, alors on a trois autres auteurs. On a David Senou, on a Loïc Chevalier et ainsi que Antoine Houck, ainsi que Emmanuel Guibert qui a fait une séance de dédicace à l'occasion du festival.
On rappelle, Gabrielle, que l'exposition, elle est visible jusqu'au 18 septembre.
Oui, exactement. Elle est visible jusqu'au 18 septembre, jusqu'à la fin des Journées du patrimoine. Merci à vous.
Poursuivons le reportage avec Emmanuel Guibert, l'invité d'honneur du festival Traits de mémoire.
Écoutez, j'ai été invité ici parce que je suis auteur de bande dessinée et que j'ai réalisé, je continue de réaliser d'ailleurs depuis des années, un cycle de livres consacré à un ami que j'ai eu qui s'appelait Alan Ingram Cope, qui a été un GI de la Seconde Guerre mondiale. Il était né en 1925 en Californie, il a donc fait à 18 ans en 1943 la guerre sur le théâtre d'opération européen. Et le mémorial a décidé de lui consacrer une exposition pour laquelle j'ai prêté un certain nombre d'originaux. Et je suis présent aujourd'hui parce qu'il va y avoir dans quelques dizaines de minutes une sorte de conférence accompagnée de musique d'ailleurs. J'ai un ami, Philippe Moratoglou, musicien, qui nous a rejoint pour s'adresser aux Compiègnois et leur raconter l'histoire de cet homme.
On va revenir sur l'ouvrage tout à l'heure avec précision, mais avant peut-être parler un petit peu de votre parcours. Votre première bande dessinée, elle s'appelait Brune, elle était parue en 1992.
Oui, c'est ça, en 1992, je fais paraître un livre qui m'aura coûté à peu près 7 ans de travail, Et une des principales choses que m'aura appris ce livre, c'était de ne pas recommencer, de ne pas faire le même type de livre, mais néanmoins de continuer à faire des livres, parce que j'avais pu mesurer ma force de travail et mon envie de consacrer ma vie au fait de raconter des histoires, en dessin ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence c'était une bande dessinée. Et puis voilà, ça a été la mise à feu d'une vie de dessinateur qui depuis a connu beaucoup d'incarnations différentes à travers toutes sortes de bouquins et de collaborations souvent, qui sont non seulement des collaborations, mais des amitiés, parce que s'il y a une chose dont j'arrive pas à me lasser, c'est vraiment de travailler avec des amis.
Une collaboration notamment avec le dessinateur, l'auteur Johan Sfar.
Avec Johan Sfar, avec David B, avec Mathieu Sapin, avec Marc Boutavant, pour lequel je scénarise une série enfantine qui s'appelle Ariole. Donc oui, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens avec lesquels j'ai aimé travailler, par admiration pour leur talent, et puis par atome crochu, qui est quelque chose qui s'explique pas bien, mais qui tient un peu à l'origine de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le récit de la vie de cet homme, Alan Cope, que j'ai rencontré par hasard en lui demandant mon chemin dans la rue, et qui est devenu vraiment un ami très très proche, au point qu'il ait spontanément décidé de me raconter son existence pendant 5 ans, très assidûment, c'est-à-dire en me donnant un nombre de détails absolument considérables, qui me permettent aujourd'hui, plus de 20 ans après sa mort, de continuer à lui consacrer des livres.
Donc c'était des longues séances de discussion, vous preniez des notes, en même temps vous dessiniez. Comment s'est passé ces entretiens ?
On était un peu comme on est tous les deux aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais grosso modo le même attirail que vous, un petit magnétophone, sauf qu'à l'époque ils étaient encore à cassette. Et on se retrouvait autour d'une table, on buvait des coups, le jardin s'arrosait pendant ce temps-là, parce que tout ça se passait non loin de Saint-Martin-de-Ré, où il avait une maison de ville, et à 1 kilomètre de là, il avait un jardin, et c'était dans le petit chalet au centre de jardin, de ce jardin, qu'on se retrouvait le plus régulièrement possible pour discuter et s'enregistrer. C'est là qu'il a repris par le menu son existence, pour ainsi dire depuis le début, pas chronologiquement, parce qu'il m'a raconté sa vie en la prenant un peu par tous les bouts, en fonction de l'inspiration, mais en tout cas, il a été très méthodique dans l'envie de me donner un tableau le plus complet possible de qui il avait été, qui il avait rencontré, quelles expériences il avait faites, ce qu'il avait pensé dans l'existence, aux diverses phases qu'il avait traversées. Donc j'avais 30 ans, entre 30 et 35 ans à l'époque, lui avait entre 69 et 74 ans, et pendant ces 5 années, on a été proches, comme je le dis, l'un de l'autre, attentifs l'un à l'autre. Mmh. Et c'est une expérience, somme toute, pas si courante que de rencontrer des gens qui sont vraiment désireux d'aller au fond des choses avec vous et de vous raconter abondamment leur vie. Et puis que ça tombe sur quelqu'un qui, moi en l'occurrence, qui était disponible, qui avait envie de quelque chose comme ça, qui n'avait pas l'œil sur la montre, qui était désireux de profiter de l'expérience, de rester là, de pratiquer l'amitié, et en même temps de s'entendre tenir un récit qui m'intéressait, pour la raison que les générations sont ainsi faites qu'on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes expériences, et la sienne était particulièrement spectaculaire, même si sa guerre a été une guerre parmi d'autres, pas une guerre particulièrement héroïque, et pas non plus tragique, elle a été dangereuse, elle a été, évidemment, elle a été source pour lui de toutes sortes de questionnements et d'angoisses, mais il s'en est plutôt bien tiré. Et il avait le talent de raconter des menus faits, qui sont généralement les faits dont on purge les récits de guerre. On se dit qu'on va plutôt raconter des choses spectaculaires, des moments de paroxysme comme ça, et donc c'est ce dont sont faits la plupart des films. Si on va voir Tom Hanks ou John Wayne au cinéma, on s'attend à ce qu'il y ait de la castagne, à ce que les gens se tirent dessus. Alors la guerre, c'est aussi ça. Ça peut être aussi des grands voyages pour des jeunes gens qui sont nés dans un pays lointain, en l'occurrence la Californie, lui, et puis qui se retrouve, par les hasards de la guerre, propulsé en Europe, dans une tourelle d'engins blindés, qui découvre le paysage autour d'eux, les villages qui traversent, les populations locales, etc. Et chez qui ça éveille toutes sortes de découvertes, de réflexions, de sensations qu'il n'avait pas oubliées au soir de sa vie et qu'il racontait très très bien.
Vous écoutez actuellement l'interview d'Emmanuel Guibert, auteur de la biographie dessinée La guerre d'Alan. On ne l'a pas précisé aux auditeurs, mais Alan Cope a participé à la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, étant né en 1925, en 1943, mathématiquement, il avait 18 ans, la guerre battait son plein, et il a été d'abord envoyé dans le Kentucky, à Fort Knox, qui était une usine à soldats américaines, où la plupart des GI qui sont allés se battre sur le continent européen ont été formés. Donc c'était une dizaine de milliers de soldats qui vivaient en permanence dans cette ville, en quelque sorte, qui était ce camp. Et puis ensuite, la traversée de l'Atlantique dans un paquebot réquisitionné aux Italiens, et puis le débarquement en Europe, heureusement pas en 44, il a fait un débarquement plus tardif, il est arrivé en février 45 au Havre, une ville qui à l'époque était plate comme la main, puisqu'elle avait subi des destructions terribles, et ensuite donc cette traversée de l'Europe dans une tourelle d'engins blindés qu'on raconte dans le livre.
Alors on peut parler de biographie dessinée, biographie dessinée que vous avez réalisée en 3 tomes.
Oui, à l'origine la guerre d'Alan c'était une trilogie. Et puis il y a 2 autres volumes parus depuis qui s'éloignent chronologiquement de la guerre. Le premier s'appelle L'enfance d'Alan, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Mmh. Et un autre volume s'appelle Martha et Alan et le récit de ce qu'est un premier amour dans l'existence. Le petit garçon ou la petite fille dont on tombe amoureux à 5 ans en cours de récréation et ce qui peut en advenir dans l'existence dès lors qu'on se perd de vue puis qu'on se retrouve, etc. Donc ça me paraissait une question suffisamment universelle et importante pour lui consacrer un livre d'une centaine de pages. Et puis là, je vais, à partir du mois de septembre qui s'annonce, là, entamer un nouveau volume consacré à son adolescence.
Cet après-midi, vous avez rencontré vos lecteurs, vos lectrices, et vous avez dédicacé de nombreuses bandes dessinées. Comme vous le disiez, c'est homéopathique ce moment.
Non, j'ai dit qu'il était homéopathique parce que ça s'est passé dans des circonstances très agréables. D'ordinaire, c'est un peu la presse. Là, on n'était pas trop nombreux, donc on avait le temps de discuter avec les personnes qui ont bien voulu venir me présenter un livre. Donc c'était très agréable. Oui, c'est une des vertus du fait de mettre le nez hors de chez soi pour des circonstances comme celle-là. C'est qu'on a affaire soit à des gens qui connaissent votre travail et qui sont contents de vous rencontrer, parce qu'ils vous ont lu dans le passé, il y a déjà entre eux et vous une sorte de complicité préexistante que l'auteur connaît pas, mais qui connaît bien parce que lui-même la ressent pour les auteurs qu'il aime. Et puis il y a des gens qui découvrent. Et ça, c'est toujours aussi une expérience enrichissante. J'ai par exemple déjeuné avec une enseignante qui visiblement ne s'intéressait pas beaucoup à la bande dessinée comme genre et qui était là parce qu'elle a été invitée par la municipalité à se rendre à ce vernissage. Et donc, ne sachant pas du tout ce qu'elle allait y trouver, elle arrivait vierge de toute espèce de préjugés. Et donc, elle a regardé. Elle a su trouver les mots pour me dire que ça l'avait touché, que ça lui avait plu. Donc, c'est très agréable, ça. C'est l'effet de véritable révélation qu'il y a réciproque dans le fait, pour nous, d'avoir affaire à des gens qui nous apprécient avant même que de nous lire, puisqu'ils découvrent une exposition, ils se rendent compte que les dessins leur plaisent, que visiblement le sujet est susceptible de les intéresser. Et puis, pour les visiteurs, le fait que l'auteur soit là une journée et que, évidemment, c'est la porte ouverte à des discussions, à des questions qui leur brûlent les lèvres ou qui leur viennent spontanément à la visite. Donc, ça détermine généralement de très bons moments et c'était le cas ce matin, on a vraiment été bien.
Merci, Monsieur Guibert, pour ce moment.
Je vous en prie, merci à vous.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc en ce samedi 18 juin au mémorial de l'internement et de la déportation à Compiègne. Avait lieu la 3e édition du festival Traîne Mémoire, festival dédié à la bande dessinée historique. L'exposition La guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert est visible jusqu'au 18 septembre. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.